avec Morgane Cazot. Merci avec Jérémy Crépin. Avec Florence Mendez. Tanguy Passureau est avec nous. Daniel Morin. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Charles de Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac qui va venir nous parler du peuple de demain, une exposition atelier à découvrir en ce moment au Centre Pompidou à Beaubourg. C'est jusqu'au 9 mai, vous avez un petit peu le temps et c'est vraiment un très beau moment pour les enfants et pas que pour les enfants, on va en parler avec lui. Mais d'après vous, on va jouer avec quel thème de blind test pour parler de cette exposition?
Les musées.
Demain, le mot demain.
Peut-être le mot demain, premier titre.
Jérémy.
Oui.
Ah non, je me suis trompé.
Ah, Blur. Florence Blur.
Ah, mais
Morgane,
non, alors.
Si on peut mourir demain.
Alors, qui a dit son nom d'abord?
Bah, moi, je l'ai dit il y a une demi-heure.
Alors, c'est Jérémy.
C'est Pascal.
Jérémy, bravo.
Et Natacha Saint-Pierre.
Bravo.
Si on pouvait mourir demain.
Mourir demain.
C'est mourir le thème?
C'est très rock.
Ouais.
C'est mourir, bien sûr, le thème.
D'accord.
Premier point pour Jérémy. Deuxième titre, c'est parti.
Tanguy.
Ouais.
Ah, demain, c'est loin.
Bah oui, Ayane, quoi. Demain, c'est loin. Mais je sais pas à qui c'est de dire, du coup.
Si, c'était toi. C'était toi le premier. C'était le plus rapide. C'est en effet Ayane, demain, c'est loin.
Lendemain, après lendemain. Lendemain, c'est pas le problème. Vie au jour le jour, on n'a pas le temps, on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé.
Un point pour Jérémy, un point pour Tanguy. Que se passe-t-il tous les deux? Qu'est-ce qui se passe, le couple là?
Madame se moque.
Non, on parlait de l'expo.
Ah, oui, bon, alors là, oui, fais gaffe. Fais gaffe. De troisième titre.
Oh la vache.
Ah oui.
Jérémy, c'est pas Vianney?
Non.
Florence, Indochine,
non plus.
Bah si, Jérémy, c'est pas Vianney. C'est pas faux, ça fait un point.
Florence
Gallam. Non,
Amel Bent.
Oui, mais
j'ai dit Florence
Lab.
Fais ralentir en régie, mais.
Non, c'est
Amel Bent. Alors on le donne à Florence. Absolument. Ouais. C'est la régie.
Je sens ta pitié, Leïla, merci.
Mais alors faut vraiment bien dire son nom, parce que sinon le point le prochain, je ne vous donne pas. Si vous donnez bien votre nom, il vous répondez tout de suite. Vous ne faites pas une Leïla, quoi.
En c'est la cravache.
Quatrième titre. Ouais, bah oui, mais parce que sinon on n'y arrive pas avec vous.
C'est Ludovico Einaudi.
Ah non. Mais tu te
traverses des chemins.
Jérémy.
Morgane.
C'était limpide.
Demain, c'est toi.
C'est un peu propre, non?
C'est quoi ce regard? Zaz, donc c'est pas...
Jérémy, je te donne le point. Mais la prochaine fois que tu parles avant de dire ton prénom pour commenter et que les autres n'entendent pas.
J'apprends les
Ah, c'est pas ça du tout la technique.
Exactement. On t'entend beaucoup.
C'est pas joli ce que tu fais.
Et au-delà de ça, je trouve que ça gâche la dynamique du jeu surtout.
Merci Tanguy pour cette évaluation en direct. Tu as raison.
En plus, Jérémy, il est un peu raciste.
Deux points pour Jérémy, un point pour Florence, un point pour Tanguy. Ça suffit.
Moi, je l'aime bien.
Score à l'école. Cinquième titre.
Morgane, oui, c'est Jean-Louis Aubert.
Super, tu as le titre.
Demain sera parfait.
Ouais.
Bravo.
Je vais te faire oublier ton âme en peine, ton monde de
Tu l'avais pas celle-là, Jérémy Crépin.
Bah si, je pouvais pas parler avant.
Ça t'embouche un coup.
Hein. Demain sera parfait.
Jean-Louis Aubert, demain sera parfait. Avant dernier titre, c'est bientôt le blind test. Le blind test, le super bon cours. Écoutez, c'est le reconnaître. Là.
Tanguy.
Oui.
Trio.
Bravo Tanguy.
Ouais, bien joué.
Le titre, tu l'aurais?
Ben non, du tout.
Et si on filait un joint demain?
Avec plaisir.
J'ai rien prévu pour demain.
Tout de suite même.
Titre de trio. Deuxième point pour Tanguy. On continue à jouer avec demain dans ce blind test pour parler de l'exposition Le peuple de demain. C'est le banco, super banco. Vous êtes prêts? Concentrés. On ne triche pas, Jérémy.
Mais arrêtez.
Vraiment, on se surveille. Non, mais toute la régie est contre Jérémy.
Ça fait 4 ans. Je peux le dire? Jérémy, Marc Lavoine.
Non.
Jérémy, Gaëtan Roussel.
Je le donne à Jérémy, en effet. C'est Louise Attaque, si l'on marchait jusqu'à demain.
Bravo.
Et c'est donc une victoire de Jérémy Crépin.
Bravo Jérémy.
Asseyez-vous.
Et on accueille notre invité Jean-Charles de Castelbajac.
Bonjour, France Inter. La bande originale. Leïla Kaddour.
Bonjour Jean-Charles, soyez le bienvenu.
Bonjour Leïla.
Dans la bande originale, on va parler de cette exposition magnifique. Exposition atelier, le peuple
oui,
de demain,
interactive.
Au centre Pompidou, absolument interactive et pour cause, parce que vous proposez un univers, votre univers.
C'est ça.
Qui passe par... alors c'est difficile de tout expliquer comme ça, puisqu'il y a des dispositifs ludiques. On est amené à mettre la main, vraiment, dans l'exposition, dans l'atelier.
Oui, c'est important. En fait, c'est une quête, la quête d'un langage universel. Hein. Je propose aux enfants de tout âge, d'ailleurs, de la petite enfance jusqu'à mon âge, ceux qui veulent reconstituer leur enfance,
ouais.
de chercher au travers des couleurs, de la gamme chromatique, au travers des signes, au travers des sons, puisque j'ai fait appel à Julien Granel pour mettre en musique mes couleurs, d'écrire et de constituer un nouveau langage. Alors, je me suis basé sur des sciences très anciennes qui sont la vexillologie, la science des drapeaux. Et l'héraldique et la science des blasons. Mmh. En disant à chacun des enfants, crée tes signes, inspire-toi de ce que je te propose et invente un nouveau langage. Voilà.
Et ça donne un atelier absolument génial où les enfants s'éclatent, clairement, les grands aussi. J'ai
oui.
passé une petite partie de l'après-midi hier à déambuler. En plus, quand on entre dans le centre Pompidou,
oui.
Tout de suite, en hauteur sur la gauche, on voit l'atelier. On voit ces couleurs tout de suite qui nous interpellent.
Les drapeaux. Je voulais
et
que ce soit comme un vaisseau spécial. Hein, donc,
et les totems. Et les totems aussi qu'on
et les totems,
a...
Parce que je voulais évoquer une forme de spiritualité non confessionnelle. Donc j'ai érigé 3 totems de 5 mètres, très beaux, qui sont des sculptures en fait, qui parlent de l'espace, de la ville et de la nature. Donc il y a ce référent-là qui est la référence à un culte qui est incontournable aussi, qui est l'écologie, qui est la conscience.
Et ce qui est génial, c'est qu'on peut apercevoir, voir ces enfants-là dialoguer par le biais de leurs symboles et de leurs couleurs.
C'est cela. Il y a un taux de fréquentation extraordinaire,
ouais.
puisqu'on a dépassé, je crois, 70 000 visiteurs. Et c'est surtout un lieu, c'est il faut le dire, au cœur du centre Pompidou, qui est déjà une agora de couleurs,
oui.
De convivialité, d'humanité.
C'est vrai que c'est un des musées parisiens se sent le plus... En tout cas, on ne sait pas qu'on ne se sent pas dans un musée. Je ne voudrais pas que ça soit péjoratif pour les autres musées parisiens
non,
qui sont super aussi, mais il y a quelque chose de différent.
Oui, il y a une dimension extrêmement accueillante, en fait.
Mm-hmm.
Hein, ce forum porte bien son nom parce que on y voit une convergence de gens très différents et qui s'initient. Et j'aime beaucoup que ce peuple de demain, cette exposition, nous emmène vers d'autres expositions du musée. Ça, c'est très important.
Et puis, le Centre Pompidou, c'est pas n'importe quel musée pour vous parce que quand on voit votre travail hyper pop, vos couleurs,
bien sûr.
Et quand on voit cet édifice qui maintenant est passé un
bien
petit
sûr.
Peu, qui fait partie du cadre,
bien
mais
sûr.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Mais non, quand on voit ces... Quand j'ai vu, moi, ces couleurs s'ériger au cœur de Paris, j'ai eu le sentiment que c'était un peu...
C'était pour vous ?
Voilà, c'était ma maison.
C'était
voilà.
pour vous.
Et maintenant, j'y suis depuis maintenant plusieurs mois. Et l'exposition ensuite va partir à Shanghai, donc va voyager. Et c'est une aventure merveilleuse.
Vous dites que c'est une cathédrale de l'audace.
C'est une cathédrale de l'audace.
Un Versailles du futur.
Mais surtout, c'est un lieu dans nos époques tourmentées, parfois troublées. C'est un lieu de paix, il faut le dire. Hein. C'est un lieu qui fait que la culture prend son rôle incontournable,
oui.
qui est celui de fédérer, de rassembler, d'unir.
De trouver ce dialogue.
Ouais. Et d'initier et de révéler.
Avec beaucoup de dispositifs pédagogiques, avec beaucoup d'ateliers, vous pouvez concevoir votre drapeau.
Oui, j'ai travaillé avec des pédagogues. Ma chef de projet, Isabelle France Marty, m'a beaucoup aidé à concevoir des expériences. Il y a 8 expériences. Il y a une marelle aussi qui est très belle.
Marelle, géniale.
C'est une marelle, on pourrait s'envoler puisqu'elle est faite de sons, les signes deviennent des sons. Il y a aussi la manière de constituer un drapeau musical, il y a un révélateur d'ambiance musicale aussi avec un artiste appelé Remcat qui utilise le langage des signes pour inventer une nouvelle danse.
Il y a l'atelier qui a le plus de succès, c'est Crée ton drapeau.
Oui. Hein.
Vous savez, la France n'a pas toujours été très amie de son drapeau. Le drapeau a été parfois kidnappé par des notions politiques ou des choses comme ça. Là, il y a une sorte de réconciliation avec l'idée du drapeau comme quelque chose d'identitaire. Donc, le numéro un, je crois, sur ces drapeaux, c'est l'arc-en-ciel. C'est le cœur avec des ailes. J'ai créé une succession de signes qui nous parlent de paix, d'amour, de choses très simples en fait.
Et quand on parle de drapeau, aujourd'hui on pense à l'Ukraine, on pense à ce drapeau
bleu
et jaune.
On y pense absolument.
Ces couleurs.
Et on pense aussi, c'est ce qu'on apprend au travers de l'exposition, à la symbolique qu'il y a derrière les couleurs.
Ouais.
Dans le cas de l'Ukraine par exemple, ce bleu du ciel qui est évocateur de liberté, ce jaune des plaines d'Ukraine, qui est la force du blé, de productivité et de la nourriture. Donc il y a
les couleurs de l'Europe aussi
et l'histoire de l'Europe bien sûr.
Voilà. Tout ça à découvrir au Centre Pompidou, Le Peuple de Demain, une exposition atelier de Jean-Charles de Castelbajac. Vous y avez passé pas mal de temps.
J'ai passé toute la pandémie.
Ouais.
En fait, j'ai passé la pandémie à deux choses passionnantes qui étaient accompagner ma petite fille dans ce monde nouveau, puisque j'ai une petite fille à ce moment-là, une fille plutôt, et puis créer cette exposition de toutes pièces, puisque j'étais dans un endroit très isolé. Je créais mes structures, je créais mes totems. Grâce au digital, j'ai pu les envoyer, j'ai pu créer cette exposition. Et c'est une aventure humaine passionnante puisqu'on était, j'avais une équipe extraordinaire au Centre Pompidou et on a maintenant comme une sorte de jardin initiatique.
L'amour, la liberté, la bienveillance, la paix, toutes ces valeurs dont il est question avec Jean-Charles de Castelbajac.
Vous n'allez pas du tout vous retrouver ici.
Ouais, on va changer un petit peu d'atmosphère liberté, parce que Morgane Cadignan, ici présente, ne vous aime pas.
Et Jean-Charles de Castelbajac, je vous aime pas, mais quand Nagui n'est pas là, les souris dansent. Mais quelle semaine, mes enfants! Jean-Charles de Castelbajac, Amanda Lear, on voit que c'est Leïla aux commandes, hein, cette semaine. Ça a un goût de chic, c'est mondain. Je comprends même pas qu'on termine pas les émissions au champagne. Vous imaginez Leïla qui dirige une station de radio, Dalida et Boy George qui présentent le 7-9.
Ouais.
C'est la guerre, oui, mais du style. Chantal Goya, la météo, Régine pour la revue politique et Ariel Dombal qui s'interview toute seule de 19h à minuit et demi. Franchement, mais moi, ça serait trop bien. Je signe tout de suite. Ça dépend de quel côté tu vois le truc. Pour moi, CSA, c'est Camp Paris, Suze, Amaretto.
Ah oui.
Et à bientôt sur France Inter. Oh là là, j'en rêve. Donc Jean-Charles, je suis contente, mais à la fois, je suis pas contente. Et je suis pas en train de décrire un syndrome prémenstruel. Mais je suis en train de décrire ma jalousie. Vous avez créé une robe pour Lady Gaga et une veste pour Beyoncé. Donc,
oui.
Pardon, je suis un peu la suite logique. Et elles vous ont pas dit, les filles, mais à la base, j'étais dans le clip aussi. Puis les ligaments croisés en répétition, j'ai pas pu le faire. Et en plus, vous êtes directeur artistique de Benetton. Donc ne me faites pas croire que vous pouvez pas me caser quelque part dans une campagne. Je peux être mannequin Benetton, je suis désolée.
Ouais,
je peux porter
absolument,
des
couleurs. Absolument, absolument. J'y pensais dès que je suis rentrée.
C'est vrai
dans cette pièce, oui,
mais franchement, on sait pas de quelle origine je suis. Je peux porter des couleurs vives sans jamais sourire. Hein. La reine d'Angleterre, elle y arrive, donc je devrais m'en sortir après. Allez, moi je fais un pas vers vous. Si c'est trop vous demander de m'habiller, je peux servir de support.
Ouais.
À la limite, pour une fresque, je vous jure que c'est pas déconnant. Moi, j'ai mis des années à savoir ce qui m'allait bien en maquillage. Il y a 3 ans, je tentais des fards à paupières, les amis. À l'époque, vous auriez eu qu'à signer sur mon manteau. Mon menton, on posait au milieu de Roissy et ça marchait. Hein. 3 millions de Chinois qui se prennent en photo à côté du nouveau Castelbajac qui n'est finalement que moi, qui pense que le smokey eye bleu et vert, je gère.
Non.
Aujourd'hui, vous venez nous parler du Peuple de Demain, votre expo au Centre Pompidou. Mais si vous savez le Centre Pompidou, là, le grand truc au milieu de Paris, vous voyez les groupes de jeunes en fausse Doc Martin qui fument des roulées fleurs du pays assis par terre? Et bah, au milieu, c'est le musée. Voilà. Le Peuple de Demain, c'est une exposition pour enfants dès 4 ans et pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est joliment dit, mais personne n'a gardé une âme d'enfant. Ça n'existe pas. Moi, déjà enfant, j'avais mon âme d'adulte. Par contre, à 4 ans, j'ai refusé de fêter mon anniversaire sous prétexte que, écoutez, on en a un par an. A priori, je suis pas le petit Grégory, donc on pourra faire ça l'année prochaine. Mais pour ceux qui sont encore émus par les couleurs, le toucher, les ateliers, l'exposition est super. Puis vous emmenez votre enfant au musée. Vous pouvez pas vous empêcher de le raconter à tous les autres parents de l'école, alors que dans la vraie vie, sur la route du ski, le gamin, il a passé 7 heures de route devant la patte patrole parce que déjà qu'on va se taper les bouchons après Lyon, on va pas en plus discuter avec quelqu'un qui a même pas été foutu de décrocher son ourson. Donc, C'est super d'emmener les enfants voir des expositions participatives. Participatives, pardon, ça participe à leur éveil intellectuel. Regardez-moi. Bah, on m'a pas emmené.
Oh, mon chéri, je t'emmènerai.
Oui, s'il te plaît.
Je t'emmènerai, puis en plus, je te filerai le cahier d'activité lié à l'exposition.
Ça, ça a été passionnant à faire.
C'est
aussi.
Génial, ça. Ouais, ça, ouais. C'est une pépite parce que. Présentez-le-nous, Jean-Charles.
Oui, bah, c'était vraiment. Mon objectif, c'était que parallèlement à l'exposition, il y ait un archipel d'éléments. Qui soient des fragments de l'exposition. Et celui-ci est très important, puisqu'en fait, c'est l'exposition que l'on emporte après avoir vécu les expériences. Donc il y a des expériences sur la couleur, sur il y a 80 stickers qui vont faire la joie des vitriers, des parents.
Ouais, les frigos.
Il y a une initiation au dessin, donc il y a un travail sur les signes, sur la symbolique, et il y a deux couvertures, je le voulais double.
Avec
J'aime toujours cette idée quand je publie un ouvrage, c'est qu'il ait deux couvertures et donc deux vies.
Et c'est vrai que les enfants s'en emparent et ne le lâchent pas.
C'est ça. Ouais, donc il y a un côté sur les drapeaux et un côté sur les totems. Parce que les totems, c'est une forme de puzzle émotionnel qui est très important.
Et là, sur qu'il y a une injustice, moi je me demande à quoi ressemblaient vos cadeaux de fête des mères quand vous étiez petit. Vous deviez faire des trucs de malade pour votre maman, j'en sais rien, tandis que moi, le mien, il gribouille des trucs nuls.
Non, en fait, pas du tout, puisque j'étais en pension. Moi, je rentre en pension à l'âge de 6 ans, j'en suis sorti à 17 ans. Oh. Et donc, je faisais des dessins, je dessinais des batailles, je dessinais des choses qui étaient bien loin de... du monde de l'enfance reconstituée que je suis en train de mettre en place.
Voilà, vous avez inversé les
voilà,
choses.
J'ai inversé.
Maintenant, c'est vous êtes le plus grand des enfants, Jean-Charles Le Castel-Bajac.
Je dis souvent ça, c'est vrai. C'est
vrai. Lui, Henri Dess.
Enfant, j'étais très tôt un adolescent. Adolescent, j'étais un adulte. Et là, j'ai la chance de
pouvoir être l'architecte de mon enfance. C'est l'image de vos cahiers, les couvertures sont
différentes. Ouais. Ouais, c'est ça, cette image.
Et vu le succès que vous remportez avec les enfants, c'est qu'il faut bien que vous ayez quelque chose en commun avec eux. Et
oui.
C'est en effet ça. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'au Centre Pompidou, quand vous allez visiter cet atelier exposition, à chaque dispositif, il y a une personne qui est là. Une jeune femme, un garçon.
Absolument.
Super. Alors j'ai rencontré.
Formidable.
De médiation.
Dirigée par Isabelle France-Marty avec. Des médiatrices qui sont initiées et qui emmènent les enfants vers la création.
Et moi, j'ai assisté, justement. J'ai pas pu photographier ou filmer parce que j'avais peur que les parents se demandent qui fait ce genre de choses. Quand il y a des enfants, c'est compliqué. On peut vite passer pour quelqu'un de louche.
Oui. C'est pas la première fois.
Mais j'ai pu assister à la présentation d'un premier atelier par une médiatrice qui s'appelle Emma. Et je la salue parce qu'ensuite, elle m'a expliqué plein de choses. Et elle m'a fait aussi me promener dans votre atelier. Et j'ai vu la façon dont, de façon très pédagogique, elle montrait aux enfants comment, notamment, composer leur drapeau ou choisir petites cartes postales qui sont à la disposition.
C'est
j'en ai pris deux, j'ai choisi
c'est très important,
la paix et l'amour.
Vous avez fait un très bon choix, l'amour et la paix.
Hein, l'amour
donc il y a
paix.
Déjà cette colombe, en fait, il y a quelque chose d'un peu prémonitoire, parce qu'on parle beaucoup de paix dans cette exposition, et d'aimer l'autre, donc il y a quelque chose de très fort. Et j'aimais l'idée que ces cartes postales, que ces dessins soient des cartes postales.
Ouais.
Qu'en fait, chaque famille puisse partir avec, les envoyer et faire voyager l'exposition ainsi.
Et ainsi de développer, discuter avec la médiatrice ou avec les parents ou avec les copains
c'est
du
ça.
Sens des dessins.
C'est ça.
Parce que c'est une forme de, vous parlez d'une sorte de météo émotionnelle.
Tout
pour
à fait.
Positionner ce qu'on ressent à un moment donné. Souvent avec les petits enfants, quand ils ne sont pas encore capables de bien
c'est
parler,
ça.
On leur demande de montrer des images pour voir s'ils sont en colère, s'ils...
C'est ça.
Ils
c'est
ça. Tristes.
En fait, c'est un autre langage.
Ouais.
C'est un langage émotionnel.
Ouais, et c'est
parce
génial.
Parce que je dis aux enfants, en tant que docteur Castel-Bajac, à partir du moment où tu as vu cette exposition, tu dessineras, tu feras un dessin par jour. Pour raconter que tu n'es pas content, que tu es triste, que tu es heureux, mais ça sera ta forme plutôt que de crier et tout, d'expression. Et ils aiment bien, ils aiment bien ça.
Traduire les sentiments.
Et ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que la quête de ma vie, en fait, ça a toujours été de faire se rencontrer mon art et ma mode.
Oui. Hein,
vous voyez, ça c'était vraiment quelque chose quand je parlais de ça dans les années 80 et que je voulais dessiner sur mes vêtements, convoquer des amis peintres sur mes vêtements et tout. Je disais, mais non, c'est deux mondes tout à fait différents, l'art, la mode et tout. Et puis on s'aperçoit que peut-être est-ce Internet, peut-être ce décloisonnement en notre société, tout est devenu transversal. Hein, donc, j'assiste aujourd'hui à un moment très extraordinaire pour moi.
Où tout fusionne.
Où voilà, par exemple, demain, j'ai ma collection sort chez Benetton.
Oui.
Il y a beaucoup de signes communs avec mon exposition. Et soudain, mes dessins voyagent, en fait. Mon art voyage, mon art est porté.
Et vous traduisez par ces dessins, par l'usage de la couleur, donc des émotions, des sensations que les enfants peuvent s'approprier au sein de cette exposition, Le Peuple de Demain. Et cette synesthésie aussi, vous la faites en musique. On a évoqué tout à l'heure Julien Granel, qui s'est chargé de traduire vos couleurs en musique.
Formidable
et ça, c'est déjà une belle idée. Avec, par exemple, Amour absolu. Julien Granel, si vous ne voyez pas qui est ce jeune artiste, chanteur, compositeur, multifacette, vous allez le remarquer par son look, déjà.
Oui,
très coloré, très pop, très joyeux.
C'est ça.
Avec
là,
souvent...
c'est une cavalcade d'amour, hein. C'est magnifique ça, magnifique.
Comment vous avez travaillé ensemble ?
Eh bien, en fait, depuis le début de ma carrière, tous mes projets sont accompagnés par un musicien. Alors j'ai eu vraiment Pedro Winter, Jonathan Fitoussi, Malcolm McLaren, et je cherchais un musicien qui puisse correspondre à cette idée de couleur, à cette idée d'arc-en-ciel, et incontournablement c'était Julien. Et Julien a accepté tout de suite, s'est donné à fond. On a même créé une machine qui n'est pas une chose, qui n'est pas un élément de DJ, mais qui est un qu'on appelle le synthémo. C'est le synthétiseur des émotions, donc où tous les sentiments sont mis en place et sont traduits par des sons. Donc cet amour de cavalcade sur laquelle on met d'autres émotions.
Ah, vous êtes amusé, ça se sent. Alors ça, c'est amour absolu. Cette cavalcade, il y a le rêve aussi.
Ah, ça c'est beau. Il y a un côté fairy tale.
Fairy tale ou soirée très fatiguée à 5h du matin. Hein. Je vous le dis, c'est.
Il y a aussi ça.
Ouais. C'est pas incompatible.
Il y a le côté after.
Il y a deux lectures pour les enfants, pour les parents. Hein.
Voilà.
Donc, avec la complicité de Julien Granel, avec ses sons qui font aussi que cette exposition, elle prend une autre dimension.
Tout à fait. D'ailleurs, Julien m'a demandé de faire une intervention sur son prochain album, qui sort d'ici quelques semaines.
Et vous allez faire quoi ? Magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire comme intervention sur son album ?
Je raconte la manière dont j'ai kidnappé la couleur.
Comment on fait ça, ce vol ?
Dont j'ai kidnappé l'arc-en-ciel, en fait.
Et comment vous avez kidnappé cet arc-en-ciel ? Parce que vous expliquez...
Écoutez, c'est très simple. Je crois que ça a été... mon premier choc émotionnel, c'était les arc-en-ciel. Et parce que je suis passé du Maroc où je suis né à la Normandie où il pleuvait tout le temps. Donc, petit garçon, l'apparition des arcs-en-ciel, voilà, je l'ai retrouvé dans les vitraux, dans l'église le matin. Donc,
parce que vous racontez que votre travail s'est essentiellement articulé autour des quatre couleurs primaires qu'on retrouve.
Absolument.
Le bleu, le rouge, le vert, le jaune, avec chacune de ces couleurs une signification aussi assez précise.
Forte, puisque dans le rouge, il y a effectivement la passion, il y a aussi un peu de colère, il peut y avoir le sang, il peut y avoir des choses fortes et violentes. Dans le bleu, il y a la spiritualité, il y a l'esprit, il y a une forme de il y a la pensée. Dans le jaune, il y a le soleil de mon enfance, il y a quelque chose de comme votre t-shirt. Hein,
c'est, de Tanger, donc forcément.
Bah oui, moi de Casablanca, donc il y a cette espèce de dimension solaire. Et c'est vrai que le vert il n'a jamais été aussi tendance qu'aujourd'hui, puisqu'il est la respiration, il est donc tellement présent dans nos vies. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu de pastel Bajac, en fait. Hein. J'ai rarement eu.
Et tout ça, est-ce que ça rend plus heureux ? Je me suis fait la remarque, parce que ce matin, voilà, petite confidence, en me réveillant, je me suis dit, pour cette émission avec Castel Bajac, vu ce que j'ai vu en couleur avec les gosses la veille à Pompidou, je vais mettre de la couleur. Et ben, j'ai la sensation que ça me rend plus légère et plus heureuse.
J'en suis convaincu.
Ouais.
J'en suis convaincu.
Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas trop en couleur.
J'ai failli.
On aurait dû s'appeler.
Il fallait qu'on s'appelle.
La couleur est à l'intérieur pour vous. Une couleur qui est cernée de noir aussi, parce que
toujours,
on vous voit quand on vous voit dessiner quelque chose de très beau, parce qu'il y a quelque chose de très enfantin.
Oui.
qui a l'air très enfantin.
Le noir me permet de fragmenter. Hein. Mmh. En fait, moi, j'ai cette ligne claire. Je travaille selon la ligne claire. Quand je trace à la craie dans Paris
sur
mes
les
anges depuis plus de maintenant 2 décennies, ouais. J'ai besoin d'avoir un trait rapide, efficace, onirique, épique. Donc je dois aller vite. Voilà. Mmh. C'est un geste qui est lié à la fulgurance. J'aime ça.
Est-ce que cette fulgurance, ce geste-là, vous voulez toujours autoriser de sortir et de dessiner sur un mur, dans la rue?
J'ai toujours autorisé, et ça a été ma manière de prendre ma liberté, en fait. Hein. Que ça soit dans mes actes créatifs qui étaient toujours, en général, décalés par rapport à ce qui se passait. J'étais téméraire.
Mmh, voilà. Toujours avec ce détournement téméraire, que vous aimez bien, façon de faire un pas de côté,
j'adore,
de regarder différemment.
J'adore. Et aujourd'hui, je suis passionné par l'idée d'une création démocratique.
Mmh. Qu'est-ce que ça serait?
J'aime cette idée, c'est ce qui me passionne dans mon aventure avec Benetton, c'est de pouvoir faire des choses belles, accessibles et qui soient faites d'une manière éthique. Donc il y a tout cette aventure que je suis en train de vivre.
On vous invite à aller découvrir Le Peuple de Demain, cette exposition atelier de Jean-Charles Castelbajac. Alors on dit que c'est à partir de 4 ans, mais moi je crois que c'est à partir du moment où on a envie de voir des couleurs,
oui,
voilà, et qu'on a envie de dialoguer, qu'on a envie de toucher, parce que tout d'un coup il y a une dimension aussi sensorielle qui est très intéressante et qui n'est pas habituelle dans l'art. Généralement on ne touche pas, on reste à distance,
ah non,
donc là il y a quelque chose de génial.
Je crois que l'art est en train de traverser un moment historique où il y a la dimension muséale, bien sûr, mais il y a la dimension participative.
Ouais.
Et cette dimension participative, elle est fondamentale.
Et c'est un très bon exemple avec Le Peuple de Demain, en ce moment jusqu'au 9 mai. Mais ne tardez quand même pas trop, et tout de suite dans la bande originale, c'est Florence Mendez. Elle voit rouge, elle est en colère, Florence, souvent.
Hier au parc, ma chienne est tombée nez à nez avec un hérisson. Visiblement, elle était remplie de joie, elle secouait la queue, elle faisait des allers-retours entre le hérisson et moi en mode « Mais regarde, je te dis, c'est une souris qui pique !» Le hérisson, il a dû sentir qu'elle ne lui voulait aucun mal parce qu'il s'est même pas mis en boule. Ou alors, il a eu tellement peur qu'il était dans le déni. Eh bien, les gens autour de moi me font vachement penser à ce hérisson. Je trouve quand même que tout le monde est vachement détendu alors que ça commence dangereusement à ressembler à un refrain de Didier Super. On va tous crever et tout le monde se marre. Moi, ça fait une semaine que je respire dans un sac. Pas un sac plastique parce qu'il n'y en a plus. Putain, d'écolo de mes couilles, t'as déjà essayé d'hyperventiler dans un tote bag? Vous êtes sur France Inter, il est 11h30 et c'est la fin du monde. Bonjour. Bon, j'avoue, je suis pas du tout chaude pour la fin du monde. Hein. Puis parfois, sans faire exprès, j'allume ma télé, je tombe sur Énergie Douce et je me dis, bah, pourquoi pas finalement? La fin des temps, de toute façon, elle est déjà là. Tu lis un tweet d'Hanouna et tu comprends que le participe passé, le conditionnel, l'imparfait, tout ça, c'est fini. Alors, fait intéressant, l'étude de la fin du monde s'appelle l'eschatologie. À ne pas confondre avec la scatologie. Remarque, dans les deux cas, t'es bien dans la merde. De tout temps, on a cherché à savoir quelle sera notre fin. On peut pas dire quand, mais on peut dire où. Clairement, la fin de l'humanité, elle a commencé en Méditerranée. Attention à bien distinguer l'extinction des humains de la destruction de la planète. Une espèce peut être éradiquée sans pour autant que son habitat soit complètement rasé, sauf dans le cas des morpions et des poils pubiens. On ne sait pas non plus très bien comment, pour certains, la fin du monde, ce sera des cataclysmes en série, des vagues immenses, des incendies géants, des hordes d'animaux sauvages qui attaquent les humains. Bref, ce que les Australiens appellent mardi. Les catholiques, eux, attendent le jugement dernier. Alors les mecs, concentrez-vous plutôt sur un premier jugement, celui des prêtres pédophiles par exemple. Les Mayas, souvenez-vous, pensaient, eux, que la fin du monde allait avoir lieu en 2012. Ils se sont plantés à la surprise générale de personne. Les mecs, s'ils avaient eu des dons de voyance, hein, avec les Espagnols, ils auraient respecté les gestes barrières, ça leur aurait évité de se faire décimer comme des cons par la variole. Là, y a Nostradamus, il a aussi prédit la fin du monde, hyper fiable, il a quand même prédit 8 des 2 guerres mondiales. Je vous avoue que je vois pas l'intérêt de connaître la date précise de la fin du monde. C'est quoi le concept? Faut se préparer, il y a un dress code, enfin tu vois. J'espère en tout cas que la fin du monde, ce sera pas un astéroïde, parce que si les politiques y gèrent ça comme ils ont géré la crise du Covid, on aura tous l'air bien cons avec nos casques de chantier. Heureusement, pour nous aider à combattre notre peur de la fin, on a inventé la philosophie.
Ah voilà.
Il y a par exemple la fin de l'histoire, concept qui apparaît dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel et dont je fais mention uniquement parce que j'aime bien mon job de chroniqueuse dans cette émission et que, oh, quelle coïncidence, la future patronne d'Inter anime les chemins de la philosophie sur France Culture. Clairement, philosophe, ça a perdu de son prestige. Ça a commencé à l'Acropole, ça se finit sur CNews. T'imagines un débat entre les philosophes de l'Antiquité et ceux de maintenant. T'aurais Finkielkraut face à Tacite. Finkielkraut lui hurle « Mais taisez-vous !» Et Tacite répond Ok. Étymologiquement, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, mais clairement, dans le cas de Finky, c'était pas consenti. Allez, je vous laisse sur l'un des sujets du bac philo de l'an passé. Sommes-nous responsables de l'avenir? Déjà, faut s'entendre sur ce qu'est l'avenir. Est-ce que, par exemple, l'avenir, c'est les enfants? Moi, je suis séparée de père, du père de mon fils, du coup, je veux bien être responsable de l'avenir, mais une semaine sur deux. C'est tout pour moi.
Merci, Florence.
Florence en spectacle ce soir au Métropole à Paris et ce mois-ci à Bordeaux et à Tignes.
Et Jean-Charles de Castelbajac au Centre Pompidou. Et l'art fait du bien. J'ai lu cette phrase là dans le cahier d'activité.
Oui, l'art, oui, oui.
L'art fait du bien sur une des robes justement que vous avez l'habitude de peindre.
Absolument.
Comme une forme de performance. On dirait que vous avez fait ça devant le Centre Pompidou.
J'ai fait ça devant le Centre. Ça a été ma première intervention. Mm-hmm. C'était une performance avec quatre jeunes artistes contemporains. On avait ces robes, on sortait du Covid, on avait ces grandes robes blanches comme des fantômes, et soudain on est intervenu sur ces, comme un cadavre exquis, en fait, la convergence de nos traits différents, et cette renaissance s'est opérée. C'était très beau, c'était très émouvant.
On a parlé des couleurs, on a parlé des formes, de la vexillologie, de l'art, oui, des drapeaux, des blasons aussi, oui, héraldiques.
Oui,
héraldiques.
Oui.
On n'a pas évoqué les mots, parce qu'il y a aussi des mots, il y a une poésie dans cette exposition, avec des mots entrecoupés, comme correspondance.
Oui,
il y a tout
ça.
Un travail aussi musical.
Oui, c'est ça. Il y a un travail musical, c'est-à-dire qu'il y a aussi une porte ouverte vers d'autres possibilités, c'est-à-dire que l'imaginaire suggère aux enfants d'autres manières de créer des consonances, de créer de mélanger des émotions, de convergence.
Vous avez toujours été passionné par les drapeaux. Vous dites que vous les collectionnez depuis très longtemps.
Depuis toujours.
C'est vrai. Alors comment?
Depuis toujours.
C'est-à-dire des drapeaux, vous récupérez comment?
Écoutez. J'ai toujours trouvé que dans le drapeau, il y avait une évocation très forte des accidents de l'histoire, en fait. Hein. Donc, je me suis passionné pour... en fait, je suis venu à la mode par l'histoire. Mmh. Donc, le drapeau avait un rôle important. Il était dans l'espace extérieur, face au vent. Et j'ai des drapeaux très anciens, très extraordinaires. Je rêve d'un jour de faire une exposition.
Avec tous vos drapeaux.
Oui, de raconter l'histoire de France au travers des drapeaux. Je trouve que on peut utiliser l'histoire pour se construire. Voilà. C'est ce que je voulais dire.
Une expo avec vos drapeaux, c'est quand même faisable. Vous dites j'en rêve, mais c'est pas...
J'ai d'autres priorités pour l'instant.
Ah, d'accord, c'est
donc c'est pas le moment.
D'accord.
Mais je pense que ça, je le ferai à un moment.
Avec cette musique au cœur de l'exposition composée par Julien Granel. On a quelque chose aussi de pop et de sautillant.
Tout à fait.
De très joyeux, de très joyeux aussi dans cette exposition. On va se plonger à présent, Jean-Charles de Castelbajac, dans les musiques que vous écoutiez ou vous écoutez toujours dans votre vie. On va commencer votre bande originale par l'année 69. The Velvet Underground. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là ?
Parce qu'il y a cette idée d'énergie, en fait. Je venais de province, j'avais envie de conquérir la ville, et j'aimais tous ces groupes très alternatifs, comme les Yardbirds, comme Velvet Underground, qui avaient en fait, à partir de guitares pas très bien réglées, travaillaient sur des sons psychédéliques, quelque chose un peu sombre aussi. Et puis il y a cette idée de Run, 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 courir et d'aller vers ton futur. Donc il y a une idée de conquête.
69, c'est votre premier défilé, parce qu'il faut dire que non seulement vous êtes un artiste inclassable, Jean-Charles de Castelbajac, et vous l'avez dit aujourd'hui, c'est plus un problème, ce qui a pu être le cas dans le passé. On ne savait pas où vous situer.
Oui.
Vous avez été hyper précoce aussi. Premier défilé en 69.
Protéiforme.
Complètement protéiforme, avec des matières aussi, des matières différentes de ce qu'on faisait à l'époque.
Oui, ma préoccupation, en fait, comme j'avais cette envie d'être artiste et que j'ai pris ce chemin vers la mode, ma préoccupation était de commencer les choses par la fin. Mmh. Donc j'ai commencé à utiliser des matières qui venaient de déchets.
Qui n'étaient dites pas nobles en tout cas.
Qui étaient des matières mal aimées, qui étaient les serpillères, les couvertures, qui étaient faites par des tissages de...
les toiles cirées.
Voilà, les toiles cirées, les rideaux de douche, tout ce qui était détournement. J'avais fait comme philosophie de ne jamais utiliser des matières qui étaient destinées à la mode.
Et pourquoi ?
Parce que son rideau de douche était en jean.
Non, parce que je les trouvais plus mystérieuses, plus troublantes. Elles m'interpellaient. J'ai eu mon premier succès aux États-Unis avec des robes en bande velpo.
C'est génial.
Que je trouvais extrêmement. Et en fait, je me suis aperçu très vite que des mouvements artistiques avaient la même démarche, comme l'Arte Povera, comme qui utilisaient des matières détournées ou que l'origine même de mon travail était dans cette quête de détournement.
Et puis, dans les années 70, il y a aussi une campagne de pub que vous réalisez avec le photographe Oliviero Toscani.
Oui, je reviens de Milan, là, on a fêté ses 80 ans. Et en fait...
C'était pour des jeans.
C'est une maison de jeans emblématique italienne. Et
ça s'appelle Jésus Jeans.
C'est ça. À l'époque, on s'est aperçu que le nom de Jésus n'était pas copyright. Et donc...
Il est toujours pas
Il l'est, je pense qu'il l'est. Oh. Et on a fait cette ligne qui s'appelait les Jeans Jésus, qui était un grand scandale à l'époque.
Parce que tout d'un coup, il y avait un rapport à la religion, à une forme de sexualité aussi.
Oui, c'était ça. Et puis, jean. Donc, ça, les situationnistes sont emparés. Ça a été une grande, grande polémique.
On passe aux années 70, mais 76 cette fois-ci. Et vous avez une histoire avec les Sex Pistols. Là, c'est My Way.
Oui, en fait, un jour, je marchais sur King's Road. Un jour, c'était en 72, donc vous voyez, il y a très longtemps. Et c'était l'époque où je faisais ces vêtements très situationnistes, détournés en serpillière. Et je vois une vitrine avec des t-shirts qui étaient faits, ornés d'os de poulet. Et ces os de poulet, en fait, il y avait le mot sexe. Écrit avec ses autres poulets, il y avait le mot rock. Mmh. Je suis rentré et c'était la première boutique de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren. Et on est devenus très vite amis. Il est venu me voir à Paris et il me dit « Ah, tu as un grand appartement, tu pourrais peut-être loger le groupe dont je suis manager ». Et quelques semaines plus tard, il y avait les New York Dolls en robe et en plateforme shoes dans mon salon. Et c'est ainsi que j'ai connu Malcolm et que Malcolm est resté mon ami durant toute sa vie.
Comment vous pouvez expliquer ?
D'ailleurs, il y a un très bel album de bande dessinée dont j'ai écrit la préface qui vient de sortir chez Futuropolis. Qui s'appelle L'Art du Désastre.
Comment vous expliquez toute cette convergence de rencontres ? C'est-à-dire que quand moi je lis votre vie, Jean-Charles de Castelbajac, je me dis... C'est l'artiste qui a toujours été au bon endroit, au bon moment.
Vous savez, le bon endroit et le bon moment, il faut le chercher. Hein, il faut avoir envie de rencontrer ses maîtres. Il faut avoir envie de rencontrer ses mentors. Il faut avoir envie aussi...
Ça veut dire que vous n'hésitez pas à l'époque à vous déplacer, à aller voir.
Bah oui,
qui vous êtes allé voir comme ça par audace?
Bah Antonioni par exemple. Je sais pas. À 17 ans, j'avais une vieille moto. J'apprends qu'Antonioni était à l'hôtel des grands hommes et j'ai frappé à sa porte et j'ai apporté un plateau de petit déjeuner. J'ai dit puis-je avoir une conversation avec vous? Il a accepté. Donc je pense que il y a un décalage de génération et certaines jeunes générations hésitent. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile.
On peut entrer en contact
facilement.
Moi,
je reçois quotidiennement des messages. Mais à l'époque, c'était pas aussi simple. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé dans le monde artistique, il y avait comme ça des figures comme David Hockney, comme Warhol, comme Ettore Sottsass, qui m'impressionnaient parce qu'ils avaient déjà bouleversé, cassé les codes. J'avais eu la chance de rencontrer Raoul Haussmann qui était un dadaïste et là Malcolm il y avait cette dimension de bouleverser tout avec le punk, hein. Il y avait cette idée de casser les codes, donc ça c'était très très intéressant.
Et dans ces années-là, vous signez les costumes d'Isabelle Adjani pour le film Violette et François.
Ah, c'était joli, Violette et François, parce que Jacques Dutronc allait toujours dans ma boutique pour lui voler des manteaux, et il se trompait toujours de taille. Donc, il arrivait toujours avec des vêtements trop grands.
Et puis, chapeau melon et bottes de cuir, quand même, mythique.
C'est ça, et Charlie's Angels, avec Farrah Fawcett.
Incroyable.
Ouais,
c'est
ouais,
dingue.
Effectivement, quand je regarde ça, et tout en voyant tous les projets qui m'attendent, parfois c'est un peu vertigineux. Ouais.
On passe aux années 90, en 97.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Et là, c'est Jacquenot. Je vous salue, Marie, pour illustrer cette année.
Ça, c'est un grand moment. Je vous remercie de le passer parce qu'elle n'est jamais passée à la radio.
C'est
et
vrai.
Je pense que Jacquenot doit être très heureux. En fait, lorsque je suis devenu le directeur artistique des JMJ pour l'avenue du Pape,
Journée mondiale de la jeunesse.
La Journée mondiale jeunesse en 97, sur la demande de Monseigneur Lustiger, j'ai créé des chasubles avec l'arc-en-ciel pour 500 évêques, 5000 prêtres, et j'ai fait 1 million de t-shirts pour les jeunes, tout ça à travail de bénévoles, et la chasuble du pape.
C'est énorme. On se retrouve habillé, le pape Jean-Paul II.
Donc
quand
j'ai
même
vraiment des images à voir sur Google, ouais. C'est tout à fait extraordinaire, parce que quand j'ai apporté cette idée de l'arc-en-ciel à Monseigneur Lustiger, je lui ai dit, vous n'allez sans doute pas accepter ce projet parce que c'est le drapeau de la communauté homosexuelle et de la paix. Il m'a dit, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel, et donc le projet s'est fait. Et donc je devais choisir aussi les participants à cet événement, et j'ai demandé à ce que Jacquenot écrive la musique.
Et vous croyez que c'est les jeans Jésus qui vous ont aidé à tenir le job?
Non. Je pense que c'était pas un job d'abord, c'était un travail de bénévolat pour une réunion autour de la jeunesse, mais c'est peut-être ce qui m'a fait pardonner ce premier geste.
Enfin, c'était la rédemption.
La rédemption.
Et là encore, ça générait aussi des réactions contestataires quand on a appris que c'était vous qui allez vous occuper d'habiller.
Bien sûr, j'ai eu le droit à ma seule couverture de Libé qui s'appelait la Cato Pride de Castelbajac. Enfin,
qu'est-ce qu'on vous reprochait?
Bah, vous savez, les catholiques à l'époque étaient très très inquiets de l'idée du beau,
oui,
en fait. Hein. Le beau et le sacré, ils avaient oublié que Matisse avait fait une chapelle à Ronchamp, que Le Corbusier en avait fait une autre, que le beau et le sacré, Michel-Ange avait déjà fait des choses merveilleuses. Donc le beau et le sacré ont toujours été complices. Et puis de l'autre côté, il y avait cette idée d'extraordinaire déferlement sur Paris, multiconfessionnel, hein, parce qu'il n'y avait pas que des chrétiens. Donc j'ai demandé à Denis Jacquenot, que je connaissais depuis les années 80, je lui ai dit, Denis, réécris-moi le « Je vous salue Marie ». Et il a envoyé cette mélodie incroyable d'électro. Il y a deux versions, il y a une version en latin et une version
latin électro.
Vous pouvez les trouver, latin électro, je crois que c'est une des seules musiques latin électro. Et lorsque je l'ai fait entendre Rue Barbette Jouy à Monseigneur Lustiger le matin à 5h30 après la messe,
il a fait un limbo.
Quelques jours avant les JMJ, là il m'a dit, ça Jean-Charles, ça va pas être possible.
Jean-Charles, il est 5h30.
Non, je dis pas ça, mais on était déjà passé au travers de l'aventure de l'arc-en-ciel qui plaisait pas du tout aux traditionalistes de Rome. Et donc, cette mélodie, malheureusement, n'a jamais été...
C'est dommage.
Tu vas trop loin. Tu vas trop loin, Jean-Charles.
Ça aurait peut-être permis d'amener encore plus de jeunes.
Jean-Charles, vous avez habillé beaucoup de monde. Vous avez été contacté aussi par plein d'artistes à leur début, ce qui fait que vous avez pu sceller certaines collaborations.
Oui, mais vous savez qu'à l'époque où j'ai habillé le pape, donc j'ai habillé un saint, j'avais été contacté par Marilyn Manson.
Ah oui.
Qui m'avait dit...
Quel inverse.
J'avais cru comprendre, tu pourras avoir plus de couverture médiatique avec le diable qu'avec Dieu.
Qui est-ce que vous aimeriez habiller aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un fantasme
à part moi?
Voilà, qui aimerais-je habiller le plus grand nombre, en fait, hein, pour donner de bonnes ondes. C'est ce que je fais à partir de demain chez Benetton avec ma collection qui s'appelle In Love We Trust
et on y vient à Benetton avec l'année 2018.
Ah, j'adore ça.
Ah oui.
Alors Jean-Charles, vous nous avez demandé ce morceau, Flavien Berger, Arco Iris, featuring Étienne Jomet, et vous avez demandé de le caler à 1 minute 28.
Oui. Oui, parce que l'intro est très planante, psychédélique. On peut mettre un peu plus fort, là ?
Vous êtes chez vous.
Cintas de color.
5h du matin, le retour.
Ouais, il y a une ligne directrice dans sa bande originale.
Et là, sur le canapé, Monseigneur Lustiger.
Avec l'arc-en-ciel.
Ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Flavien Berger, très, tellement talentueux. Et c'est comme un hymne à la couleur, ça. C'est un hymne à la couleur. Et Benetton n'avait jamais défilé dans sa longue histoire. Et donc, j'ai appelé Benetton Rainbow Machine. Une machine oui. En fait, je voulais, c'était un peu ma transformation des GMJ. J'avais utilisé l'arc-en-ciel pour, comme ciment de la foi, avait dit le pape. Là, je voulais utiliser l'arc-en-ciel comme ciment de l'espoir. Donc, j'ai fait ce défilé qui a rassemblé toutes les couleurs de Benetton. Et avec cette musique de Flavien, qui est vraiment un artiste ultra talentueux.
Et comment on se renouvelle quand on est en charge d'une collection?
Il y a Jaunet, qui est ce garçon qui travaille dans un groupe qui s'appelle Zombie.
Étienne Jaunet. Oui. Comment on se renouvelle? Comment on travaille quand on doit créer une collection? Quand on sort une capsule?
Comment on se renouvelle? Alors bon, il y a une base, il y a une base de codes. Il y a des codes auxquels je ne déroge pas. Un code qui est la fonction, par exemple. Qu'un vêtement soit fonctionnel.
Oui.
Qu'il ait des poches, qu'il soit confortable.
Qu'il soit chaud.
Qu'il vous mette en valeur aussi. Où l'esthétique rend compte la fonction. Et puis ensuite, il y a une gamme chromatique. Ensuite, il y a l'ADN de mon style. Et ensuite, il y a l'émotion. Tout ce que je capte dans mon grand filet de pêcheur d'émotions durant l'époque, là, ce que je capte de sombre, je vais le transformer en positif. Ce que je capte d'inquiétant, je vais le transformer en espoir. Et je le propose ensuite dans un geste.
Et c'est un halo d'espoir aussi, de joie que vous proposez au Centre Pompidou. On accueille Selma Toprak-Denis. Bonjour Selma.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe des publics et chef du service de la médiation culturelle du Centre Pompidou. Tout à l'heure, j'ai rendu hommage à Emma, cette jeune femme qui m'a gentiment menée au sein de cet atelier exposition, qui m'a expliqué plein de choses, notamment comment les gamins interagissaient entre eux, des gamins qui se connaissent pas, qui se retrouvent là, qui se mettent à jouer ensemble, à construire une sorte de totem qui finit par s'effondrer et commencent ensemble et ils n'ont de cesse de ils forment des équipes. Tout d'un coup, il y a une sorte de collectif qui est créé comme ça. L'art, on en parlait tout à l'heure, cette exposition, j'ai dit à partir de 4 ans parce que c'est ce qui est indiqué sur les communiqués. Mais est-ce que on peut y aller plus tôt, éventuellement?
Oui, bien sûr. Si une famille vient avec des tout-petits, toute l'exposition est pensée pour tous les âges de l'enfant. Donc, dès l'entrée, il y a par exemple un tapis de sol qui est tout à fait accessible aux tout-petits, qui leur permet d'aborder de premières notions, qui sont celles de la composition, en déplaçant des formes sur des fonds de drapeaux, qui leur permet d'aborder les questions de la couleur, etc. Et on travaille aussi beaucoup pour les tout-petits, y compris au sein du musée, avec des parcours comme les cosy visites. Donc, on travaille... on accueille les enfants dès qu'ils sont bébés.
Je veux être au courant, je veux voir ça, je veux rencontrer tous ces bébés en train de crapahuter. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez.
Pour les enfants. Pour les bébés, justement, on organise 2 jours de fête. Alors, en matinée, parce que les bébés, souvent, ils sont très en forme dès 8h30, 9h.
C'est vrai, même avant.
je vous confirme. Ouais. Et donc, on organise un week-end dans l'année qui s'appelle la mini-partie, où on déploie des dispositifs artistiques qui sont pensés pour les bébés, toutes sortes de visites.
Je vous interromps, Selma, juste pour dire à nos auditeurs que le bruit de fond que vous entendez, l'ancien, c'est une petite alarme incendie au sein de la maison de la radio, mais nous, on ne bouge pas.
C'était pas un titre de Jean-Charles de Cassel.
Voilà.
Ça va m'inspirer.
On tient le siège.
On tient la ligne, là, comme ça, qui va, avec la ligne claire de Jean-Charles, qui va nous produire ainsi une autre exposition. Comment est-ce qu'on conçoit justement une expo pour les petits? Moi, j'ai été fascinée hier par cet atelier parce que j'ai trouvé qu'il y avait à la fois toutes les composantes de la création de Jean-Charles et une liberté folle.
Et oui, c'est tout l'enjeu du travail des chefs de projet au sein du service de la médiation. Et là, Isabelle France-Marty, qui a travaillé sur cette exposition, s'est vraiment attachée à faire le lien entre l'univers artistique de Jean-Charles, donc tous ses dessins, toutes les idées de composition, et les différentes étapes du développement de l'enfant. Donc on travaille sur les sens, sur la couleur, ouais. sur le toucher, sur aussi sur la relation geste et son, sur la marelle par exemple, ouais. où on va activer des créations sonores ouais. en sautant.
Ah, il y a un vrai travail alors.
Oui,
ah,
oui.
oui, oui, je te confirme. Je te confirme qu'il y a un vrai travail.
Mon travail. Et surtout, on conçoit l'exposition pour que ce soit un parcours et qui permette voilà, d'aborder d'abord les questions de couleur, de composition, ensuite la relation geste-son, ensuite la construction avec les totems, ensuite la création sonore avec le synthétiseur. Donc il y a différentes... sur chaque exposition, en fait, on conçoit vraiment un parcours qui font appel à différents gestes et différents dispositifs artistiques.
Selma, comment on fait venir les enfants au musée? Est-ce qu'il faut d'abord il faut plaire un peu aux parents, il faut trouver le moyen aussi, on parle de médiation avec votre secteur de responsabilité, il faut trouver le moyen d'attirer aussi les parents pour dire qu'ils vont passer un bon moment tous ensemble.
Oui, oui. Alors on crée toutes sortes de dispositifs, donc on a la chance au Centre Pompidou d'avoir la galerie des enfants, d'avoir des ateliers pour les enfants, et on travaille beaucoup aussi sur la relation parent-enfant, puisque sur la galerie des enfants, vous êtes venus avec vos enfants, ce sont aussi des moments, des souvenirs très heureux qui se créent au Centre Pompidou, puis après dans les salles du musée. Là, par exemple, on vient de sortir un petit jeu qui est un petit jeu qui s'appelle Oser au musée, qui est remis à toutes les familles qui viennent, voilà, qui prennent un billet famille. Et là, c'est vraiment un jeu avec des défis à réaliser au sein du musée face aux œuvres, qui amène les enfants à la fois à mieux regarder les œuvres, mais aussi à désacraliser la relation à l'œuvre, à se rendre compte que c'est dans un endroit dans lequel on peut se sentir bien. Et puis on organise aussi toutes sortes d'événements avec des artistes, des musiciens qui créent des parcours spécifiques pour les enfants.
Mais ce qui est bien pour les enfants, c'est que vous le disiez, là, il y a un travail énorme qui a été fait, mais en fait, c'est un parcours qui se fait de façon très naturelle.
Oui, c'est l'idée.
Oui, c'est l'idée.
Il y a les jeux vidéo aussi qui font leur apparition au sein des musées. Les jeux vidéo, ça a vraiment beaucoup de succès. Là encore, c'est une façon de dire que en venant pour tel atelier, c'est l'occasion de découvrir ce qu'il y a autour aussi.
Oui, alors il y a effectivement tout un travail sur le jeu vidéo, mais on a créé aussi un jeu vidéo au sein du Centre Pompidou qui s'appelle Prisme 7, et c'est vraiment une épopée au sein des collections du Centre Pompidou. Et quand on gagne certaines étapes, on gagne des œuvres. En fait, il y a tout un parcours qui est construit autour de la lumière et de la couleur. Et puis, on a aussi des espaces qui sont dédiés pour les adolescents, le studio 13-16, où là, il y a toutes sortes de dispositifs, où c'est un espace de création à la fois par et pour les jeunes. Donc, on invite de très jeunes artistes qui souvent sont tout juste sortis d'école d'art, voire encore en école d'art, à créer des workshops, enfin des ateliers, dans lequel les adolescents peuvent venir.
Merci beaucoup Selma et bravo pour tout ce boulot qui fait que beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition Le Peuple de Demain de Jean-Charles Castelbajac. Tout de suite dans la bande originale, c'est enfin... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gérard Crédville. On a eu un problème capillaire. Il faut voir la vidéo.
Et non, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas Guérémy Crédville qui fera sa chronique, mais un spécialiste. Alors... Spécialiste, oui, mais de quoi?
Ah bah, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Non, je suis pas spécialiste en humour. Non, voyez, moi, j'interviens surtout sur les réseaux sociaux. Sous couvert d'anonymat, souvent, hein, c'est plus pratique. Alors, qui? Une photo de chat? Qui? Un drapeau? Etc, etc. Aujourd'hui, je suis spécialiste du conflit russo-ukrainien. Il y a deux semaines, j'étais spécialiste de la Covid-19, dernier variant, hein, je précise. Et en avril, je serai sûrement spécialiste des sondages de l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Oui.
C'est votre femme qui doit être contente.
Oh, bon, elle le sera 8 mars, hein, quand je serai spécialiste du droit des femmes.
Il y a un diplôme pour être spécialiste?
Pas du tout. Ah non, oh là, suffit d'être con et d'affirmer des vérités aussi connes que soi, vous voyez. En violant l'orthographe et la grammaire française, hein, si possible, sur les réseaux, ça cartonne. Vraiment carton. Un déménagement. Non, mais je vous l'ai dit, je suis pas spécialiste en humour. Alors après, bon, il y a des spécialités de spécialistes, hein, c'est le cas des spécialistes de plateau télé, hein, par exemple. Eux, alors c'est plus souvent des hommes blancs qui ont passé la cinquantaine et qui mettent des costumes pour être crédibles. Putain, Nagui, c'est con qu'il aime pas les costards, parce qu'il fera un carton, il coupe souvent la parole et à la fin de ses phrases, on se rappelle plus du début. Donc oui, de quoi? Mais je peux en parler, il est pas là, c'est le principe du spécialiste.
Justement.
Le petit plus des spécialistes, c'est que même s'ils ne sont pas du tout concernés par le sujet... Ce sont des spécialistes de ce sujet. On l'a vu notamment avec les débats sur le voile. Il y avait des femmes voilées invitées à parler de leur cas. Non. Il y avait Gilbert et Bernard en costume bleu foncé qui disaient qu'elles étaient opprimées parce que les hommes décidaient à leur place. Oui.
Mais en tant que spécialiste, faut connaître un peu le sujet quand même. Vous, par exemple, est-ce que vous connaissez l'Ukraine?
Oui, tout à fait. Je suis tous les dimanches à Ikea.
Ah non, pardon, c'est suédois.
Oui, mais c'est jaune et bleu.
Vous n'avez jamais foutu les pieds en Ukraine.
Si, je suis allé à Madrid une fois.
Vous êtes complètement con.
Non, monsieur. Spécialiste. Nous, les spécialistes, on aime bien les chiffres. Par exemple, si je prends de l'avance sur avril, je peux déjà dire que 55% des Français iront voter et qu'il y aura 42% d'abstentionnistes.
Ah, manque 3%.
Bon, c'est une marge d'erreur.
Ça correspond quand même aux intentions de vote pour Anne Hidalgo.
Oui, c'est ce que je dis, marge d'erreur. Ah. De toute façon, il suffit d'affirmer avec conviction pour que ça passe. Et si on est embêté par la question, on répond à côté, mais avec un chiffre.
Un exemple?
De 37 degrés.
Quoi qu'il arrive, le but, c'est toujours d'avoir...
Exactement, voilà. Okay. Et si jamais on est dans les cordes, il ne faut pas hésiter à hausser la voix et à pointer du doigt la personne qui vous met mal à l'aise, voyez, et aborder des sujets, mais vraiment complètement différents après un non-monsieur répété deux fois. Je vous donne un exemple. Non, monsieur, nous ne pouvons laisser des étrangers prendre le travail des Français, alors que depuis des années, le dérèglement climatique s'intensifie.
Ah oui, rien à voir, oui.
Rien à voir. Gilbert Montagnier? Non, je vous l'ai dit. Pas spécialiste du moins. Non, la technique imparable quand on est battu, vous voyez, monsieur, c'est de quitter le plateau en disant ce qu'on fait. Je vous montre. Je quitte ce plateau!
Oui, eh bien, merci de nous avoir écoutés. On a hâte d'avoir l'avis des spécialistes de l'humour en commentaire sous cette chronique, justement. Vous pouvez revenir.
Merci, Jérémy.
Quel grand spécialiste, Jérémy, que vous pouvez voir sur scène le 12 mars au Casino Théâtre de Genève. Les 3 et 4 mai à l'Européen. Et là, c'est à Paris.
Et là, c'est à Paris, comme l'exposition de Jean-Charles Le Castelbajac, qui va voyager, vous me disiez.
Oui, qui part à Shanghai, qui sera à Shanghai le 1er octobre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'accompagner, mais...
Est-ce qu'elle part d'Orly?
Non, elle va être recréée sur place.
L'avantage, c'est qu'elle peut voyager dans le monde entier.
Et à Clermont-Ferrand aussi, dans une structure qui est liée au centre.
C'est un centre d'art pour les 0-6 ans qui s'appelle Mille Formes et qu'on a créé avec la ville de Clermont-Ferrand.
Voilà, et ça c'est formidable.
Voilà, la précision de Selma, bien sûr.
C'est comme un groupe de rock, on est en tour.
Et si on parle de groupe de rock, forcément, moi je me tourne vers Tanguy Pastureau parce que c'est lui le plus rock d'entre nous. De quoi on va parler tout à l'heure, Tanguy? Ah, si on ouvre ton micro, ça sera mieux. On va le recommencer. Oui. De quoi on parle?
On va parler des ogives nucléaires de la Russie. Ils en ont quand même 6255, c'est beaucoup.
Ah oui,
c'est
pas mal.
La bande originale avec Morgane Cavignon, avec Florence Mendez, avec Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour,
et notre invité, s'il vous plaît, Jean-Charles Castelbajac.
Merci.
Jean-Charles Castelbajac qui nous enchante au Centre Pompidou avec son exposition Le Peuple de Demain, ou comment donner des outils. Des outils simples, faciles d'accès, compréhensibles par tous, que ce soit
absolument
les enfants ou les adultes.
Bien sûr.
Pour mieux dialoguer ensemble et peut-être créer le langage de demain.
C'est cela. Un langage universel, un langage sans frontières, un langage émotionnel.
Vous avez toujours été tourné vers le demain, vers la génération
oui,
future,
et vers
les jeunes.
Ouais. Hein, c'est surtout, je crois qu'aujourd'hui, à ce point de ma vie, la notion de transmission, elle est fondamentale. Hein, de transmettre ce que j'ai appris, ce que je suggère au peuple de demain, que sont les enfants d'aujourd'hui, et comment eux vont transformer ça et se l'approprier surtout, et créer leur propre identité.
Cette exposition atelier qui va vous mener à fabriquer vos drapeaux,
oui,
vos emblèmes.
Chaque enfant qui part, là, on a eu maintenant pas loin de 70 000 visiteurs, et chacun de ces enfants a été initié à créer son emblème, sa symbolique.
Avec un dessin que l'on vous connaît, Jean-Charles Le Castelbajac, qui est un dessin, a priori, à première vue, simple, qui ne l'est pas du tout, mais qui fait que les gamins, ils adhèrent tout de suite.
Simple et très efficace.
Et ils adhèrent tout de suite, les enfants.
Je pense qu'il y a... dans ma vie, j'ai rencontré un artiste que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Kissaring.
Oui.
Et chez Kissaring, il y avait cette dimension populaire immédiate. Hein, et j'ai toujours aimé sa démarche. Il avait fait une boutique qui s'appelait le Pop Shop, dans laquelle on pouvait trouver ses œuvres à des prix accessibles. Et je crois qu'aujourd'hui, l'art a une mission très importante, hein, qui est cette mission de rassembler, cette mission de faire que les êtres trouvent un autre langage ensemble. Mmh. On en a l'exemple en ce moment, quand on voit que les musées de Kiev ont été bombardés, qu'il y a ce vécu douloureux, terrible. L'art a un pouvoir que les politiques n'ont pas.
Il y a la couleur, il y a les formes, il y a ensuite les mots, il y a la musique, bien entendu.
Oui, il y a la musique et les gestes.
celle de Julien Granel, qui accompagne tout ce parcours, cet atelier exposition.
Tout à fait.
Où vos enfants vont vous laisser en paix pendant toute la durée, puisqu'ils ne vous regardent plus, vous disparaissez.
Oui, oui, c'est cela, c'est cela. Et puis il y a aussi, c'est un chemin initiatique. Vous savez, toutes ces sciences qui étaient la science des drapeaux, la science des blasons, c'est des choses qui étaient oubliées et en fait qui ont été substituées par une dimension très immédiate des images qui arrivent par le net. Donc il y a comment retrouver le geste, hein. Platon disait l'homme est intelligent parce qu'il a une main. Comment retrouver ça aussi? Donc il y a la présence platonicienne de dessiner et puis il y a aussi le digital, ouais, parce que effectivement c'est indispensable. Apple est venu à nos côtés pour des applications, donc il y a cette création sous toutes les formes en fait, hein. C'est pour ça que je l'ai appelé, on l'a appelé avec Selma, atelier. C'est un atelier. L'atelier, c'est aussi cette notion de faire ensemble et de construire des choses.
La couleur, le son, les mots, la poésie. Et puis, si on parle plus globalement des supports, donc au sein de l'exposition, oui, on peut dessiner, on peut colorier, on peut créer, on peut fabriquer ces drapeaux les week-ends. Absolument. Notamment. Parlez des supports parce que le premier support d'un artiste, vous le dites, c'est votre main, c'est votre peau.
Oui, oui, oui. Moi, je dessine souvent dans le creux de ma main. Quand, voilà, je dessine sur les murs. C'est pour ça que j'ai baptisé mon livre Dessin tout terrain. En fait, je n'ai pas du tout de frontières à mon expression. Et je n'ai pas non plus, je peux dessiner avec mon doigt sur la buée, comme nous le faisons tous, avec mon doigt sur la neige, avec mon doigt sur le givre. Je crois que le dessin, c'est la première expression vitale, mais vraiment vitale. On le voit dans les grottes de Lascaux jusqu'au mur de Paris aujourd'hui.
Vous parlez de préhistoire. Forcément, il faut qu'on, oui, donne la parole à Tanguy Pasturon.
Je vous aime,
oui,
tous sauf une personne.
Ah, voilà.
Pourquoi je vous dis ça? Eh ben parce que demain, on sera peut-être plus là. Déjà, en temps de paix, la vie est courte, hein, plus ou moins selon si on fait ou non de la trottinette électrique à Paris, mais là, avec la guerre en Ukraine. Mais moi, je vis chaque instant comme si c'était le dernier, une vie de punk. Ce matin, j'ai traversé hors des clous. Au distributeur, j'ai pris le potage tomate. La dernière personne à avoir fait ça, c'était en 2004. On n'a plus de nouvelles. Là, je pourrais lécher la barbe de Daniel Morin, cette réserve à bêtes classée zone humide. Parce que la Russie, c'est pas un petit coin paisible avec quatre moutons en train de bouffer de l'air. C'est pas l'Ariège qui a envahi l'Ukraine, non. C'est une puissance nucléaire énorme. Nous, quand on appuie sur un bouton, ça nous envoie au sixième étage. Et Laurence Bloch, directrice d'Inter, nous dit « Mais quel talent !» Enfin, je parle pour moi. Hein. Mais Vladimir Poutine, il a beau ressembler à Michel Blanc quand il pionce. Lui, s'il appuie sur un bouton, il fait péter la moitié de l'Europe. Et l'Eurovision, s'il reste plus que l'Islande et le Portugal parce qu'ils sont plus éloignés géographiquement de la rampe de lancement, ça va être moins sympa. Hein. 12 points à 12 avec Cyril Fureau qui dit « Voilà, il est 21h08, c'est fini, allez, bonne nuit. » D'après l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm, la Russie possède 6255 ogives nucléaires. Pourquoi 6255 alors qu'avec deux, on peut ravager la moitié du continent? Je sais pas. Ils ont peut-être eu un lot. Si ça se trouve, ils les ont achetés chez Lidl. Ils ont aussi pris des packs d'eau et des chips maxi format. Les États-Unis, eux, en ont 5500. La Chine, 350. Et nous, 290, dont la moitié sont dirigés vers les maisons des membres du groupe Tragédie. Hein, s'ils décident de se reformer, ça part. 6255 ogives et qui sont en train de chauffer. Parce que Poutine, dimanche, a mis en état spécial d'alerte ses forces nucléaires. Et nous, à part lui envoyer en représailles à Fida Turner en train de brailler, je dis, on va pas pouvoir répliquer. Hein, même Bruno Le Maire, quand il a dit qu'il avait provoqué l'effondrement de l'économie russe, 4 heures plus tard a dû revenir sur ses propos, la queue entre les jambes, tel Fifi le Chihuahua qu'on a surpris à uriner sur le canapé but de Mélie Jacqueline. Pourquoi? Parce que Dimitri Medvedev, le sbire de Poutine, lui a fait une réflexion sur Twitter, le réseau tout nul, où d'habitude Booba clash Orelsan, mais là ils nous font tellement peur que si Poutine tire la langue, Macron convoque un conseil de défense. C'est normal. 6255 ogives nucléaires, ils en ont plus que nous, des lecteurs de gauche. Et hier, je lisais sur le site de Courrier International l'interview d'un militaire russe, le général Soloviov, qui disait, je cite, « La mallette nucléaire est décachetée. Oui. » Or, quand on ouvre un bagage, c'est pour taper, incroyable, dedans. À Pattaya, quand vous dézippez votre sac, c'est pour prendre ce petit slip de bain et aller draguer sur la plage des locaux qui sont en 5e C. Hein, Soloviov explique que l'état d'alerte spéciale donc, est l'avant-dernier stade du processus. Au-dessus, il y a le niveau d'alerte totale. Là, le bouton rouge est accessible.
essayer. Poutine peut appuyer dessus. Alors, il a d'autres boutons, hein, dont un jaune à paillettes qui déclenche une soirée licorne. Bon, mais là, il est d'humeur plutôt à aller vers le rouge. Enfin, le général précise qu'en fait, alors il faut le savoir, il y a 3 personnes équipées de mallettes en Russie. Ça ressemble à un défilé Hermès, en fait. Le président, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées. Donc, ces gens, avant l'attaque, se réunissent, disent « Allez, les gars, on en lance un ou pas ?» Je suppose qu'il y a un cri de guerre, comme à Fort Boyard, du genre « L'ultimatum, les grosses sacs, comme... Hein, » puis, bon, ils appuient ensemble sur le bouton. Alors, on n'en est pas là. Il est possible que Poutine bluffe. Moi, je dis, il bluffe. Hein. Mais le problème, c'est que ça plombe l'ambiance globale. Hier, je me baladais sur le site du journal Midi Libre. À Midi Libre, d'habitude, les conflits qui couvrent, c'est la guerre entre ceux qui disent pain au chocolat et ceux qui disent chocolatine.
C'est ça.
Et là, le titre de l'article était « Qu'est-ce que l'hiver nucléaire qui survient après un bombardement atomique ?» Alors, je vous cache pas que ça m'a mis un coup au moral. Derrière, j'écoutais en boucle 16 heures au soleil de Jennifer pour aller mieux. Raté, ça m'a encore plus plombé. Donc, l'hiver nucléaire, alors je vous explique. S'il y a un carnage atomique, les particules de poussière se retrouvent dans l'atmosphère et un voile se forme entre nous et le soleil. Ce que les habitants de Dunkerque appellent, je les cite, « la vie à Dunkerque ». Donc, les températures, par conséquent, baissent de 20 degrés et on finit par tous mourir parce qu'il n'y a plus de récolte. Gerblé se retrouve à vendre des paquets de biscuits sans biscuits. Donc, en plus, ils ont toutes les associations de consommateurs sur le dos. Enfin, c'est l'anarchie. Enfin, je vais finir de vous gâcher votre joie de vivre. Je lisais hier dans 20 minutes le journal que ceux qui font de la lecture rapide appellent 2 minutes 10. Qu'en Ukraine, il y a quand même 15 centrales nucléaires en activité, à côté desquelles on tire tranquillement des missiles. Plus les 20 000 mètres cubes de déchets entreposés à Tchernobyl. L'Ukraine, c'est pas le potager bio de Julien Doré dans les Cévennes. Une erreur de manip, ça explose. Donc je crois que toute cette évolution scientifique, la découverte de l'atome, tout ça, était une erreur. On aurait dû en rester au bon vieux bout de silex attaché à un bâton. L'être humain n'est pas mûr pour avoir de telles armes. 6255 ogives nucléaires. Vous imaginez si Poutine se trompe de sac et qu'en voulant chercher ses clopes dans son tote bag, il appuie sur le bouton. Oui, ouais. Ça me fait peur. Et je sens que je vous ai stressé aussi. Donc je vais vous mettre un peu de Jennifer. Peut-être que vous vous aimerez. Voilà.
Ah oh oui, c'est bon.
Ça fait longtemps.
Un peu plus au soleil.
C'est ma génération. Et puisqu'on parle de soleil, le 23 avril, Tanguy, vous serez à Dunkerque.
Oui,
et
justement.
Merci et bravo, Tanguy Pastereau. Que se passe-t-il d'autre dans la culture à part l'exposition de Jean-Charles de Castelbajac au Centre Pompidou ? Quelques questions à vous poser. Les droits d'adaptation des livres d'un auteur sont à vendre pour 2 milliards d'euros. D'après vous, qui est cet auteur qui...
Joël Dicker ?
Non, il n'est pas vivant. Il n'est plus.
Joël Dicker est bon.
Barjavel.
Français ou...
Barjavel, non.
Non.
Français ?
Non.
Tolkien.
Ah bravo, Tolkien, absolument. Warner Bros et Amazon sont intéressés, on imagine bien. Alors c'est pas simplement que les droits pour la production audiovisuelle, c'est aussi pour les jeux vidéo, les parcs d'attractions, les produits dérivés, tout ce qui est possible de faire autour. La culture, c'est parfois une histoire de gros sous, Jean-Charles de Castelbajac. De plus en plus souvent.
Ça l'est devenu, en tout cas.
Ça l'est devenu.
Parce que moi, je me souviens, dans les années 80... J'utilisais des images de Disney, de Snoopy, que je mettais sur des pulls qui devenaient...
La baston de Mickey et de Donald.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein, Kiki.
Et en fait, je ne payais pas de copyright à l'époque. Hein. Le copyright, c'est quelque chose d'assez récent et très fort. Bien sûr, c'est devenu une histoire tout à fait flagrante de marketing, de pouvoir, bien sûr.
Et vous, vos dessins ?
Bah, mes dessins, j'ai la chance d'en avoir gardé beaucoup. J'en ai plus d'une dizaine de milliers et je les ai classés. Ma femme les a classés en fait. Elle est arrivée, elle a découvert cette montagne de... et en fait progressivement ils font leur chemin et ils appartiennent aussi à tous ceux à qui je les propose, à qui je les donne dans la rue. Il y a quelque chose de, il y a une forme de connexion et d'empathie dans mes dessins. Mmh. Donc, c'est mon lien, c'est mon fil avec les autres.
Autre question. Pierre Linet travaille sur un projet de film de super-héros.
Feuilleman.
Oh, mais bravo.
C'est quoi?
Bravo, bravo.
Ça sort de la vidéo de McFly et Carlito.
C'est ça. Et c'est un délire, en fait, qu'ils se sont tapés tous les trois avec McFly et Carlito. Voyez cette vidéo avec Pierre Linet qui est absolument hilarante. Et il délire sur l'idée d'un film de super-héros qui pourrait appeler Feuilleman. Et finalement, comme la vidéo a fait le buzz, a fait vraiment beaucoup, beaucoup de vues, ce projet-là, complètement fou, pourrait voir bientôt le jour, pourrait devenir vraiment un film qu'on pourrait voir sur grand écran.
Est-ce qu'il y aura Macron qui fait des galipettes?
Alors ça, je ne sais pas, pour la distribution précise de ce film, Tanguy Pastureau. Est-ce qu'il y a des acteurs, des artistes que vous aimeriez habiller, Jean-Charles de Castelbajac?
Oui, il y a beaucoup de jeunes performeurs, par exemple. Il y a des groupes aujourd'hui. Par exemple, je suis en train de travailler sur un projet qui est un groupe qui s'appelle Tristesse Contemporaine.
Ah, c'est
un groupe
d'électro
que j'aime bien, qui va sortir un nouvel album qui s'appelle United Color of Tristesse Contemporaine. Donc, oui, j'aime bien tout ce qui est un peu disruptif, émergent.
Et réalisé.
J'adorerais travailler avec Julien Granel aussi pour cette tournée.
Bien
berger, voilà, ouais. J'ai une tendresse pour les gens qui font un travail différent, ouais. Voilà.
Et pour réaliser un film, un documentaire ou un objet, parce que vous êtes...
J'aimerais faire un ovni, en fait, j'aimerais faire un opéra rock, je sais pas si le mot rock est juste, parce que ça serait un opéra rap, un opéra hip-hop, puisque ça raconte, c'est une forme de... C'est un livret que j'ai écrit c'est comme un petit prince contemporain, voilà.
Alors, dans votre actualité, il y a aussi, Jean-Charles de Castelbajac, un livre, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, Dessin tout-terrain.
Oui, Dessin tout-terrain.
Un super beau bouquin.
Oui, qui est un beau livre,
très beau
en papier recyclé, voilà. Avec de l'encre végétale, et qui contient 500 dessins sur 50 ans.
Et qui est comestible.
Et beaucoup d'inédits.
Et qui est comestible, absolument.
Et beaucoup d'inédits.
Comme les chaussures de Charlie Chaplin.
Tout ce qui est bon se mange, de toute façon. Voilà. Donc, il y a des inédits dans ces dessins, Jean-Charles.
Il y a beaucoup d'inédits. Il y a beaucoup d'inédits, puisque, en fait, c'est un travail assez extraordinaire qu'a fait ma femme Pauline, de sélectionner une quantité de dessins qu'elle me suggérait, et qui raconte depuis, je dirais, les premiers, c'est 68, jusqu'à aujourd'hui, mes engagements aussi.
Le site d'action
Bien sûr, le site d'action. Et puis, des moments tragiques, comme le Bataclan, tout ça.
Vous dessinez tous les jours, en fait. Vous dessinez tout le temps. Et puis, des causes aussi. Je pense à Band of Sisters. J'aimerais parler de Cécile Fricker, le Hanner.
Pour Cécile, c'est très important, de la cause des femmes. La cause des femmes battues, tout ça, c'est des choses qui me... Je crois qu'on peut parfois dire... Je viens d'une génération où le dessin était une forme d'expression au travers des affichistes, de Savignac, de Villemot, de gens comme ça. Au travers d'un dessin, on peut dire parfois, d'une manière très forte, des choses essentielles.
On a parlé tout à l'heure de votre époque Jean-Paul II, des Journées Mondiales de la Jeunesse, et de Jacquenot, qui vous avait composé « Je vous salue Marie » en français, et aussi donc en latin, et bien là.
Vous l'avez décidément. Voilà. Ça, c'est une perle.
Vous l'avez déjà entendu en radio ?
Non, jamais.
Alors, ce sera peut-être une première.
Et Jacquenot a une fille très talentueuse qui s'appelle Calypso Valois. Que j'aime beaucoup. Dont j'aime beaucoup
ce qui vient de ma main naît dans mon cœur. Une des citations de Jean-Charles de Castelbajac qu'on peut voir dans cette exposition et aussi dans ce livre, je ne l'ai pas dit, aux éditions Flammarion, Dessin tout-terrain, un très très beau livre avec vraiment.
Il a encore deux couvertures là aussi.
Mais à chaque fois, on tourne, on n'est jamais déçu, la tranche non plus.
Il fait partie de cette série d'objets que j'ai créé aussi pour. Qui sont présentés au Centre Pompidou et qui sont cet archipel d'éléments qui constituent aussi mon exposition qui va vers les autres.
Parlons des projets, Jean-Charles. Il y a en effet donc cette exposition actuellement au Centre Pompidou jusqu'au mois de mai, cet atelier exposition, Le Peuple de Demain. Il y a aussi bientôt une autre exposition, le 24 mars.
Oui, j'investis le Mobilier National, qui est un lieu parfois assez méconnu des Parisiens, qui est un endroit extraordinaire, qui a plus de 170 000 objets qui sont liés à l'histoire du Mobilier National et l'histoire de la France. Et c'est les Gobelins aussi, c'est la manufacture des Gobelins, où je fais une installation qui s'appelle La Tour d'Assise, sur les 11 chaises sur 10 siècles pratiquement, hein, puisque un peu moins de 10 siècles, puisqu'il y a le haut Moyen Âge jusqu'au contemporain. Ma mère me disait quand j'étais enfant, si tu aimes l'histoire, tu dois connaître l'histoire des styles. Et en fait, j'ai su à 11 ans, je savais ce qu'était un fauteuil Louis XVI, une chaise Napoléon III ou un meuble Empire. Et j'aime que par mon travail d'artiste, faire ressurgir ses connaissances pour donner des armes aux enfants. Voilà. Et aux enfants dans leur cœur aussi.
Voilà, c'est les grands enfants.
Et là, j'ai une bande son très belle de Chloé, hein, qui fait une composition électronique extraordinaire. Chloé Thévenin, qui m'a fait une chose magnifique, où j'ai posé ma voix et j'annonce d'une manière très solennelle Louis XIV, Napoléon III.
Donc, et la bande son à Pompidou, voilà. C'est Julien Granel avec ce morceau, par exemple.
Et il y a 40 ans de design qui seront exposés.
Des musiques un peu planantes, pas que. Ça, faut en faire quelque chose absolument.
Et là, on sent que la réouverture des boîtes de nuit.
Ça me hante.
Ouais, ça groove.
Et rêver aussi.
En fait, ça ferait de très beaux jingles pour votre émission.
Je vais y penser. Et on a parlé de la collection In Love We Trust aussi.
Voilà,
de Benetton.
Ça, j'y suis très attaché. Ça fait 4 ans que j'ai pris la direction artistique de Benetton pour amener cette maison dans la modernité. Et à partir de maintenant, je crée 2 collections par an. Ça, c'est la première que je crée en 4 ans qui s'appelle In Love We Trust. Et elle est dédiée à la paix, à l'amour. Et je l'ai dessinée il y a maintenant 4 mois, et je suis très heureux de l'avoir publié demain, en fait. Elle est dans toutes les boutiques Benetton à partir de demain.
Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Avec la vie que vous avez eue, vous continuez d'avoir les projets, vous travaillez sur quoi en ce moment? On a dit qu'il y avait potentiellement un jour une expo de drapeaux.
J'aime la mode, hein. J'aime toujours la mode. La mode a quelque chose de... ce lien intime avec les autres, donc elle est indispensable dans mon panel de création, mais j'ai très envie de construire des totems dans les villes, j'ai très envie de travailler sur des espaces urbains, sur des jardins, j'ai très envie de me remettre aussi à faire des sculptures et des tableaux, voilà.
C'est l'envie ou c'est déjà...
Et puis de refaire peut-être une mode expérimentale à un certain moment, parce que je trouve que on est dans un moment où on doit avoir et une mode très accessible et démocratique, et des choses qui montrent le chemin.
Donc vous avez commencé à faire déjà.
Tout ça est en gestation et est en place pour être construit.
Et j'ai la sensation que vous faites donc toujours quelque chose, mais qu'est-ce que vous faites vraiment quand vous ne faites rien?
Je dessine avec ma fille, Eugénie. Ce matin, j'ai fait un cadavre exquis avec elle. J'avais fait un très beau dessin, elle est arrivée. Elle a mis des feutres dessus. Je vis une sérénité accomplie.
Ça vous apporte quoi, cette paternité?
Ça m'apporte un...
Cette nouvelle paternité, parce que vous étiez déjà papa.
Oui, mais c'est surtout une paternité, c'est aussi une vie de famille. Ça m'apporte cette paix. Voilà, très simplement cette paix. Même si là, on est en train de rentrer dans les terribles tout.
Oui. Donc je rappelle cette exposition au Centre Pompidou, le peuple de demain, exposition atelier pour tout le monde, pour tous les enfants, pour tous les parents, pour même ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que quand même la vie est ailleurs aussi, avec la vexillologie, l'héraldisme, oui, des hiéroglyphes, des dessins. Ça vient de votre enfance, tout
oui,
ça.
Oui, ça vient de ma quête de connaissance, en fait. Hein. C'est ma connaissance transformée, ma connaissance de l'histoire dans la modernité et dans une dimension onirique.
Et cette musique de Julien Granel. Voilà. Et nous, il est temps.
Soyons pop.
Soyons pop.
Essayons de transformer.
Et vous êtes un ambassadeur pop.
De transformer cette dimension sombre, hein, et de participer. À cette quête de
rayonnement.
De rayonnement, ouais, ça c'est très important.
Il est temps de présenter des excuses dans cette émission, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour tous ceux qui aiment aller au musée avec leurs enfants et partager tout en visitant avec eux, et qui aujourd'hui ont été bombardés par une promo musée où les gosses se désintéressent totalement de leurs pauvres géniteurs pour faire des totems, des drapeaux ou encore de la marelle sensorielle. Parce que le troisième millénaire, l'égale autonomie commence à 4 ans. Désolé pour Jean-Charles de Castelbajac, notre invité qui, on l'a entendu, a côtoyé tout au long de sa vie, mal mondiales comme McLaren, Antonioni, les New York Dolls, Lady Gaga, Beyoncé, Andy Warhol, Jean-Paul II, les Jean Jésus, et qui, ce matin, est tombé sur nous. Pardon. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été déstabilisés par l'élégance, la culture de cette émission. C'est vrai que moi-même, j'étais un peu totalement perdu. Et je crains le pire pour demain, puisqu'on parlera de Rimbaud avec Jean-Pierre Daroussin. Ah là là, trop de culture, beaucoup trop de culture. Nagui, reviens.
Merci, merci Daniel. Merci à vous tous autour de la table. Merci Jean-Charles de Castelbajac. Que vous
merci
souhaitez
vous.
Que faut-il vous souhaiter pour les prochaines mois, les prochaines années?
De continuer ce chemin de couleurs, de lumière et de transmission.
Et avec plaisir, on vous verra donc au Centre Pompidou. Vous allez y repasser de temps en temps. On peut avoir l'espoir de vous croiser.
J'y vais dès ce soir parce que je reçois Culture Secret, qui est un groupe de gens passionnés d'art. Donc j'y vais très régulièrement.
Donc on a une chance de vous croiser là-bas.
C'est mon deuxième bureau.
Ouais, voilà. On a le temps de vous voir là-bas et éventuellement.
Ah oui, absolument. C'est très important.
Bon, merci
et Julien
beaucoup.
Granel aussi, ainsi que Karim Nard.
Merci, merci beaucoup pour cette émission, Jean-Charles de Castelbajac. Philippe Bertrand, vous êtes avec nous?
Bonjour
bien Philippe.
Sûr. Bonjour Leïla, bonjour les amis.
Comment allez-vous?
Il va bien.
Il va bien? Il va bien? Moi, je suis fatigué là, pardon.
C'est ouais, fin de journée. Mais c'est difficile par rapport à l'actualité de s'y retrouver. Je vous emmène, comme d'habitude, cette semaine en Savoie, mais je vous emmène aussi. Oui, ailleurs. Alors, je vais vous emmener à Nanterre. Chez Uyumi. Uyumi, c'est un traiteur, restaurateur qui emploie des personnes en insertion et qui est en train de se développer en Île-de-France. Et à chaque fois qu'on développe et qu'on ouvre un restaurant et un service de traiteur, on crée des fermes urbaines par la même occasion pour alimenter ce service. Et c'est vraiment bien.
Merci
enfin, voilà.
beaucoup Philippe.
Au revoir à votre service,
on va vous écouter. Belle journée sur France Inter. Bisous.
Bisous.